soir à tous. Et nous continuons nos méditations sur 1 Corinthiens, qui prennent un peu de temps parce que c'est une longue épître. Mais nous sommes au milieu maintenant de la deuxième division de l'épître. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous pour toute la série, le bleu représente le côté négatif, l'orange le positif, parce que l'épître commence sur une note bien négative et devient de plus en plus positive. La première partie parle des convoitises charnelles à rejeter qui ne doivent avoir aucune place dans la vie chrétienne. Et maintenant nous sommes au milieu de la deuxième division qui parle des droits légitimes, des choses qui ont une place légitime dans la vie d'un chrétien mais qui doivent quand même être cédées à la volonté de Dieu pour chaque individu. Et nous, en parlant de ces droits légitimes, nous avons considéré déjà le mariage et les plaisirs sains. Et maintenant, le troisième, c'est l'argent. Et pour méditer sur l'argent comme un droit légitime à céder à la volonté du Seigneur, tournons à 1 Corinthiens chapitre 9. Et ici, Paul, l'apôtre Paul, parle de l'application de ce principe à son cas à lui, mais c'est applicable à tous les chrétiens que l'argent a une place légitime dans notre vie, mais doit être cédé à la volonté de Dieu pour nous. Plusieurs ennemis de la Sainte Parole de Dieu, qui connaissent peu son contenu, ont faussement accusé la Bible de dire que l'argent est une racine de tous les maux. Et alors ils ont dit, mais voyons donc, on ne peut pas vivre sans argent. Mais ils se trompent, la Bible ne dit pas que l'argent est une racine de tous les maux, mais elle dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bien sûr, on ne peut pas vivre sur la terre sans argent, et ce n'est pas un péché non plus d'avoir un bon salaire, ni d'avoir un emploi dans lequel beaucoup d'argent passe dans nos mains, mais c'est l'amour de l'argent ou l'attachement à l'argent qui est une racine de tous les maux, parce que la Bible dit on ne peut pas servir Dieu et mammon, qui veut dire le matérialisme. Donc Paul nous parle de son cas, comment lui devait manifester le fait de céder l'argent à la volonté de Dieu pour lui, et nous pouvons voir comment notre cas aussi est impliqué. Paul nous dit, premièrement, qu'il faut céder l'argent à la volonté de Dieu malgré le fait que nous en avons besoin. Et nous lirons les cinq premiers versets pour voir ce fait, que malgré que nous avons besoin de l'argent, il faut le céder à la volonté de Dieu. Le premier verset, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Cela ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Cephas? » Donc Paul indique que lui, comme tous les chrétiens, il a besoin d'argent pour vivre, même pour les travaux qu'on attendait de lui, et même son ministère spirituel, parce qu'il y avait des dépenses occasionnées par son ministère spirituel. Paul voyageait beaucoup et ça coûtait de l'argent. Alors il dit, ne suis-je pas apôtre? Oui, Dieu l'avait appelé à un ministère qui coûtait de l'argent. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait appelé, et l'homme reconnaissait le fait que Dieu l'avait appelé, parce qu'il dit, ensuite, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur, et je suis apôtre pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc Dieu l'avait appelé à cette œuvre comme un missionnaire qui voyageait. Les hommes reconnaissaient que son appel était valable, et c'est bien entendu qu'il avait besoin d'argent pour payer les dépenses d'une telle œuvre. Et Paul avait besoin d'argent aussi pour pour les nécessités de la vie. Comme il dit dans les versets 4 et 5, il avait besoin d'argent tout simplement pour la survie. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Certains serviteurs de Dieu ont été étonnés de la mentalité découverte parfois parmi des chrétiens qui semblent penser que le serviteur de Dieu peut vivre de manne qui tombe du ciel. Harry Ironside, qui dans sa jeunesse était en train de prendre la vie par la foi, et une fois, il est arrivé au bout de ses ressources, et il a dépensé ses derniers quelques sous pour un sac d'arachide, et puis pendant le reste de la journée, c'est tout ce qu'il avait mangé, ensuite 3 jours sans manger rien du tout. Et personne ne semble avoir l'idée qu'il pourrait avoir besoin d'argent pendant qu'il tenait la série de réunions. Et après 4 jours, sans rien manger à part un sac d'arachide, il a entendu une femme d'un certain âge qui savait aussi que Ironside était en amour en ce moment-là. Cette femme célibataire d'un certain âge a dit, je commence à craindre que cette affaire d'amour de Ironside est en train de faire du tort à son âme parce qu'il n'a pas parlé avec autant de puissance ce soir. Et c'est une grande tentation pour Ironside de dire, mais vous devriez voir qu'est-ce que je pourrais faire après avoir mangé un bon steak. Mais il n'a rien dit. Et le lendemain matin, en se levant, il a trouvé que quelqu'un avait glissé une enveloppe sous sa porte avec $10 dedans, et dans ce temps-là, $10 était beaucoup d'argent. Oui, souvent, les chrétiens ne sont pas se rendre compte de ce fait, et il y a bien des serviteurs de Dieu qui ont souffert, mais néanmoins, malgré qu'on a besoin d'argent pour la survie, il faut que ce soit cédé à la volonté de Dieu. Et non seulement pour la survie, mais pour des choses qui sont normales, comme au verset 5, le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur, et ses fasses. Oui, la vaste majorité des serviteurs de Dieu ont des familles. Et bien sûr, ça coûte plus cher de faire vivre une famille que de rester célibataire, mais Dieu le reconnaît comme normal que la vaste majorité de ses serviteurs vont être mariés, la vaste majorité des chrétiens, et que ça coûte. Donc, c'est entendu que tous ont besoin d'argent, et je ne dis pas nulle part que c'est un péché de vouloir suffisamment d'argent pour les besoins de la vie, les nécessités de la vie. Mais néanmoins, malgré que l'argent est un besoin fondamental de la vie, tout chrétien sans exception doit se mettre en garde de ne pas convoiter. Dès qu'on a un emploi et qu'on commence à gagner de l'argent, la tentation commence à vouloir à convoiter et à penser, oh, ça va donc être le fun quand j'aurai une hausse. Et ça serait le fun si je pouvais gagner un peu plus et toutes les choses que je pourrais faire avec. Et ne pensez pas même que le serviteur de Dieu arrive au point où il n'est plus sujet à cette convoitise de l'argent. Même il a été dit que les trois pires des pièges pour le serviteur de Dieu sont l'orgueil, l'argent et les femmes. Et pendant les 20 ans que je suis dans la province du Québec cherchant à contribuer à l'œuvre du Seigneur de toutes les manières possibles, j'ai eu connaissance de 3 cas où un serviteur de Dieu à son œuvre est tombé à cause du piège des femmes. Et tout dernièrement, j'ai entendu aussi la triste nouvelle d'un serviteur qui avait l'air d'être vraiment un homme profondément spirituel qui a chuté, qui a causé tout un scandale à cause de l'amour de l'argent. Oui, c'est certainement un piège. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous envoie. Et voilà une raison pour laquelle nous, dans les assemblées réunies au nom du Seigneur Jésus, nous sommes tellement convaincus qu'il ne faut pas faire de sollicitation, parce que voilà toute une manière de donner expression à l'amour de l'argent. Tandis que si nous vivons tout simplement avec ce que le Seigneur choisit de nous envoyer, c'est certain que nous n'aurons pas au-dessus de nos besoins. Le Seigneur n'a jamais promis de pourvoir à plus qu'à nos besoins. Et le Seigneur prend toujours bien soin de ceux qui se confient en lui, mais il faut être en garde de ne pas convoiter. Nous devons céder l'argent aussi, malgré que nous l'avons gagné. Parce que, après tout, c'est assez normal de vouloir de l'argent quand on a travaillé pour en gagner. C'est pour cela que l'homme sort pour travailler, parce que sa famille et lui ne peuvent pas survivre sans argent. Et Paul parle de ce fait aussi que quand nous avons travaillé, nous avons gagné de l'argent, mais il faut quand même le céder à la volonté de Dieu dans les versets 6 à 14 que nous lirons maintenant, où Paul dit, ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler, c'est-à-dire ne point avoir de travail séculier, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulait avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, c'est selon la logique humaine que, d'abord, que nous avons gagné de l'argent quand nous avons travaillé, parce que Paul dit au verset 6 et 7 que lui, ayant fait l'œuvre de Dieu, avait fait un travail, et que c'était donc logique que pour un travail spirituel, autant que pour un travail séculier, il devait avoir une rémunération. Cela était selon la logique humaine. Donc, ceux qui disent on ne devrait pas avoir d'ouvriers à temps plein, ils se trompent joliment parce que la Bible enseigne ce fait que Dieu a appelé des ouvriers à temps plein. Et c'est aussi un fait selon le symbolisme de la loi de Moïse. Il faut comprendre comment on moissonnait le grain du temps de la Bible. On coupait le grain avec une faucille, puis on l'étendait sur une aire qui était un genre de plateau artificiel et un bœuf marchait dessus pour le fouler, pour faire le travail d'une moissonneuse, pour séparer les graines d'avec la tige. Ensuite, on prenait une fourche qu'on appelait un banc et on lançait le mélange de paille et de graines dans les airs. Le vent emportait la paille ailleurs et on le ramassait pour brûler, mais le grain étant pesant retombait sur place. Mais pendant que le bœuf foulait le grain pour faire le travail d'une moissonneuse, au moins qu'on lui couvre la bouche, il mangerait le grain en le foulant parce que c'est l'instinct d'un bœuf de manger de l'herbe. Et alors les nations païennes souvent couvrait la bouche du bœuf pour l'empêcher de manger le grain parce qu'il voulait tout le grain pour eux. Mais la loi de Moïse avait défendu de couvrir la bouche dans museler le bœuf quand il foule le grain. Et Paul dit, mais ce n'est pas parce que Dieu a tellement en souci que le bœuf ait quelque chose à manger. Après tout, le fermier pourrait lui en donner un autre moment. Mais c'est un symbole pour enseigner que faire le travail de Dieu est un travail comme n'importe quel autre travail, c'est-à-dire autant que n'importe quel autre, et ceux qui le font, c'est normal qu'ils aient une rémunération. Aussi, selon une comparaison raisonnable, les versets 11 et 12, où Paul dit, Après tout, nous faisons un travail spirituel pour vous, donc vous profitez spirituellement du travail que nous faisons. Donc, est-ce trop si vous nous rémunérez avec une rémunération matérielle? Parce que, après tout, ce que vous nous donnez en retour est bien petit en comparaison avec un bienfait spirituel. Cela est une comparaison raisonnable. Et aussi, selon le modèle de l'Ancien Testament, le serviteur de Dieu avait gagné de l'argent. Selon versets 13 et 14, où Paul dit que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple et à l'autel, c'est-à-dire les sacrificateurs, ils sont rémunérés. Parce que dans la majorité des offrandes que les Israélites apportaient au temple, une partie de l'offrande était pour le sacrificateur, pour sa nourriture. Mais malgré que le serviteur de Dieu a gagné de l'argent en travaillant, il ne fallait pas qu'il convoite, et Paul même avait cédé ce droit à un tel point où il était prêt à dire même « laissez faire, je ne réclame pas de rémunération pour avoir annoncé l'Évangile ». Et Paul, au contraire, il faisait des tentes dans la journée pour gagner son pain, et puis il annonçait l'Évangile le soir pour montrer à quel point il avait cédé l'argent, il ne convoitait pas d'argent. Donc voilà ce que Dieu dit directement sur le serviteur de Dieu à temps plein, mais c'est un fait pour n'importe qui, quoi que soit le travail que vous faites. Bien sûr, d'après la parole de Dieu, quand vous avez travaillé, vous avez gagné de l'argent. Et c'est normal d'en vouloir, parce qu'on en a besoin pour vivre. Mais il faut vous souvenir toujours, comme Paul devait se souvenir, que c'est Dieu qui donne la force de travailler, et la rémunération lui appartient. Et quand nous sommes livrés au Seigneur Jésus pour que nos vies soient toutes à lui, alors rien de ce que nous avons ne nous appartient plus, même pas l'argent que nous avons gagné. Et nous devons céder à lui d'abord combien nous allons recevoir, et ensuite qu'est-ce que nous allons faire avec l'argent qui passe dans nos mains. Si c'est Dieu qui nous donne la force de travailler, c'est bien raisonnable que ce soit à lui de décider quelle rémunération que nous recevons et qu'est-ce que nous faisons avec. Et il ne faut pas penser non plus que ce que nous mettons dans l'offrande au repas du Seigneur est à lui et que tout le reste est à nous à faire ce que nous voulons avec. Chaque sou que nous gagnons ou qui nous est donné appartient au Seigneur. Et le chrétien n'a pas le droit de dépenser un seul sou sans être assuré que c'est dans la volonté de Dieu de le dépenser ainsi. Donc, nous devons céder notre argent malgré que nous en avons besoin, nous devons le céder malgré que nous l'avons gagné, et nous devons le céder à la volonté de Dieu à cause d'une meilleure rémunération dont Paul parle dans les versets 15 à 18 où il dit « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai pris ainsi. » Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Donc, Paul est prêt à sacrifier ce droit d'être rémunéré pour son œuvre spirituelle et de gagner plutôt sa vie en travaillant, faisant des tentes. Et il dit, ça vaut le sacrifice, la rémunération qu'il va recevoir, parce que c'est un privilège de pouvoir annoncer l'Évangile. Et ce privilège est tellement valable à ses yeux que ça valait bien la peine de travailler doublement pour l'avoir. C'est la joie de servir. Il se sentait davantage un serviteur de Dieu et serviteur des autres à cause de ne pas réclamer de l'argent de leur part. Verset 16, si j'annonce l'Évangile, ne pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'est imposée. Et la rémunération, la meilleure rémunération que le serviteur de Dieu reçoit, c'est une rémunération qui est mesurée non pas par combien on reçoit, mais par combien on donne, comme Paul a rappelé aux Éphésiens, juste avant de les quitter pour la dernière fois, des paroles du Seigneur Jésus, disant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la meilleure rémunération se mesure à combien on donne plutôt qu'à combien on reçoit. Et Paul trouve tellement un sujet de gloire de pouvoir dire « J'ai entièrement donné le ministère de l'Évangile en l'offrant gratuitement. » Tellement il trouve ça un privilège et une joie qu'il était bien prêt à laisser faire son droit légitime. Oui, Paul, ça n'aurait pas été de la vérité si Paul avait réclamé de recevoir de la rémunération par des dons des églises, mais il a cédé ce droit légitime. Et comment est-ce que la personne qui travaille pour gagner sa vie par un emploi séculier, comment est-ce que cette personne doit céder son argent à cause d'une meilleure rémunération? Eh bien, il faut lui rappeler que toute l'œuvre de Dieu ne doit pas être laissée à ceux qui travaillent temps plein pour le Seigneur. Ça, c'est le cléricalisme qui paye un homme du clergé pour faire notre travail spirituel pour nous, et tout ce que nous devons faire, c'est de mettre l'argent dans l'offrande pour le payer. Ça, c'est loin de l'enseignement de la Bible. Chaque chrétien doit être impliqué dans l'œuvre de Dieu et impliqué même une grande partie de son temps. Et ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu temps plein et qui sont rémunérés en conséquence, ou même qui travaillent à temps partiel mais qui sont rémunérés pour la partie de leur temps qu'ils donnent à l'œuvre du Seigneur, d'habitude, ceux-là, ils reçoivent assez d'argent pour vivre, mais ils reçoivent beaucoup moins qu'ils pourraient gagner s'ils donnent la même quantité de leur temps à l'œuvre du Seigneur. Mais voilà aussi une façon de céder leur argent au Seigneur. Et quand ceux qui ont un emploi séculier temps plein se rendent compte de cela, que les serviteurs de Dieu pourraient certainement gagner beaucoup plus d'argent dans un emploi séculier comme donnant de leur temps à l'œuvre de Dieu, alors ça sert certainement comme motivation pour eux, pour ceux qui ont un emploi séculier temps plein, de ne pas laisser toute l'œuvre de Dieu à ceux qui sont temps plein dans le travail de Dieu. C'est la responsabilité de nous tous de participer à l'œuvre de Dieu, et nous ne devons pas penser que tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut que ce soit rémunéré. Ça, c'est une mentalité vraiment matérialiste. Dès que nous rendons compte que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous et tout ce que nous possédons appartient au Seigneur, et dès que nous rendons compte même un peu de notre dette envers le Seigneur et notre dette envers les hommes de leur annoncer le salut, là notre attitude au sujet de l'argent change radicalement. Avant, on a la notion que le monde me doit de me faire vivre. Mais dès qu'on se rend compte de notre dette envers Dieu et envers les hommes, notre attitude change radicalement et nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Et laisser à la disposition de Dieu chaque sou que nous gagnons. Mais en réalité, ce changement d'attitude est toute une libération. Parce que la personne qui est esclave de l'amour de l'argent est vraiment un esclave. C'est le pire des esclavages. Quand on commence à convoiter de l'argent et à penser que sur le fond de voir hausse, puis si je travaille un peu plus d'heures, je pourrais gagner d'autant plus. Des hommes qui se laissent prendre comme ça, ils se tuent au travail pour avoir de l'argent. Puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet argent? Bien, s'ils achètent de quoi avec, ils n'ont pas le temps d'en jouir. Et quand on y pense, c'est vraiment la pure des folies. De se tuer à gagner de l'argent puis pas avoir de temps ou de santé pour faire de quoi avec. Mais on voit de cela dans le monde des affaires tous les jours, et ce ne sont pas seulement les riches qui sont pris dans ce piège. Il y en a qui peut-être ne peuvent jamais espérer être millionnaires, mais ils comptent de gagner toujours le plus qu'ils peuvent et acheter le plus qu'ils peuvent avec. Et c'est vraiment à peu près le pire des esclavages. Combien on est libéré quand on apprend à se contenter de ce qu'on a et dire ce que le Seigneur m'envoie, c'est parfait. Mon temps et mon argent sont à sa disposition. Oui, la Bible dit jamais que c'est un péché d'avoir de l'argent et de vouloir en avoir suffisamment pour vivre, mais la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et celui qui se rend compte de sa dette envers Dieu et envers les hommes, une dette qui ne finira jamais de payer, il se contente de ce qu'il a. Il se rend compte que nous n'avons rien apporté dans ce monde et que nous ne pouvons rien en emporter. Et il se contente de voir que Dieu prend soin de lui et pourvoir pour les nécessités de la vie. Il veut consacrer le reste de son énergie à ce qui est éternel. Seigneur Dieu, nous rendons compte que nous appartenons à ton Fils bien-aimé qui, de riche qu'il était, est devenu pauvre pour nous, afin de nous enrichir de la richesse éternelle. Et tu nous as accordé le privilège de voir des trésors qui ne peuvent jamais passer. Nous pouvons ramasser des trésors dans le ciel où il n'y a rien pour corrompre, où il n'y a pas de voleur qui perce pour dérober. Que tu nous rappelles que notre trésor doit être dans le ciel afin que notre cœur y soit aussi. Merci de toutes tes promesses, de ta parole, pour nous assurer que celui qui se confie en toi ne manquera rien du nécessaire et qui n'a même pas besoin d'annoncer ses besoins à d'autres qu'à toi. Merci de ces assurances et que tu nous accordes la grâce, alors, de nous contenter avec ce que tu nous envoies, avec ce que tu pourvois pour nous, par le moyen que tu choisiras, et que nous apprenions à te livrer notre corps, notre âme, notre esprit et toutes nos possessions aussi, afin que tu en aies entièrement la disposition. Et c'est alors que nous connaissons vraiment la liberté. Gloire à toi qui as tellement donné pour nous. Et c'est un privilège pour nous maintenant de faire ce que nous pouvons envers notre dette à toi et aux hommes. Accorde-nous la grâce, nous te prions, de décharger cette dette pendant le restant des jours que tu nous accordes, au nom et pour la gloire de notre précieux Sauveur, le Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Bonsoir à tous. Nous aimerions que le Saint-Esprit nous sonde pour que nous puissions répondre à une certaine question. Est-ce que nous sommes une bénédiction pour ceux qui nous entourent? Peut-être qu'il semblera osé de répondre que oui à cette question, mais d'après la parole de Dieu, il est bien normal que le chrétien soit une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Et même que c'est anormal s'il ne l'est pas. Parce que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, nous lirons trois versets qui nous rendent très clair que la vie normale pour celui qui a la foi au Seigneur Jésus-Christ, sa vie normale, c'est qu'il soit une bénédiction qui est comparée à des fleuves d'eau vive. Alors, à partir du verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Où sont les fleuves d'eau vive dans votre vie?
et la mienne, pour qu'on nous dise honnêtement qu'il y a des fleuves d'eau vive qui courent de nous pour bénir ceux qui nous entourent. La vie chrétienne est souvent décrite comme si c'était simplement une vie quand on le soit. On parle de comment Dieu nous bénit, ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Et il est vrai que Dieu nous accorde des grâces énormes et même infinies, mais il nous a sauvés afin que nous puissions servir, afin que nous puissions être une bénédiction. Et je suis convaincu que Dieu nous cache bien des occasions quand il se sert de nous pour bénir les autres. Si nous savions toutes les manières dont il se sert de nous, ça nous rendrait bien orgueilleux. Mais je suis convaincu aussi que si des fleuves d'eau vive coulent vraiment de nous pour bénir les autres, Dieu va nous permettre de le savoir, de nous en apercevoir. Est-ce que nos vies sont stériles? Sommes-nous une bénédiction pour ceux qui nous entourent? Et si nous ne pouvons pas dire que Dieu nous rend une bénédiction aux autres, il y a une anormalité dans notre vie et il va falloir trouver qu'est-ce qui ne va pas. Ces trois versets nous ouvrent vraiment des vérités profondes. Ils nous parlent d'abord des bénédictions pour nous-mêmes et peut-être que ça peut sembler égocentré de commencer par nous-mêmes, mais ce n'est pas ça, c'est tout simplement qu'il faut recevoir avant de pouvoir donner. Et nous ne pouvons pas être moyen de bénir les autres si nous n'avons pas d'abord, nous ne sommes pas encore appropriés nos ressources. Il faut des ressources pour pouvoir être une bénédiction aux autres. Et le Seigneur Jésus a choisi l'occasion pour adresser ses paroles à la foule. C'est le dernier jour, le grand jour de la fête. Quelle fête? La fête des tabernacles. Tout le chapitre 7 parle de cette fête, et au début, au verset 2, il a dit que c'est la fête des tabernacles. Alors, pourquoi ce jour en particulier? Eh bien, c'était la dernière fête de l'année, et ce dernier jour était la fin non seulement de cette fête, mais des fêtes de l'année, et c'était comme alors le point capital sur les fêtes qui étaient supposées une occasion de se rapprocher de Dieu. Et puisque ce jour de fête était un grand jour, les Juifs avaient ajouté beaucoup de traditions humaines à ce que Dieu avait ordonné de faire. Dieu avait dit que pendant cette fête des tabernacles, il fallait pendant 7 jours que les Juifs habitent dans des huttes construites avec des branches, et ils devaient offrir des sacrifices, des holocaustes tous les jours. Et il devait avoir une sainte convocation ce dernier jour, qui était le 8e jour, ce grand jour. Mais les Juifs ayant compris que c'était un grand jour, et que cette fête était une grande fête, ils avaient ajouté des traditions. Et pendant les 7 premiers jours de la fête, une de ces traditions, c'était que les sacrificateurs allaient au réservoir de Siloé, et il remplissait une cruche d'eau et apportait cette eau, puis il mêlait cette eau avec les libations. Une libation, c'est une offrande liquide de vin, mais il mêlait de l'eau de ce réservoir aux libations. Maintenant, sur le 8e jour, quand il n'apporte pas d'eau dans la cruche d'eau, dans la cruche d'eau. Et c'est en ce moment que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif qui vient en moi, comme s'il veut faire un contraste avec cette tradition humaine, qui montrait de l'eau décorée dans une cruche d'eau, mais qui ne satisfaisait pas la soif. Et maintenant le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif qui vient en moi, puis je pourrais vraiment boire, je pourrais vraiment le satisfaire. Si vous lisez ce chapitre au complet, vous trouverez que jusqu'à ces 3 versets, les attitudes et les réactions au Seigneur Jésus sont très négatives. D'abord, ses frères n'ont pas cru en lui. Ensuite, la foule l'écoute plutôt comme des curieux, disant, mais comment fait-il toutes ces choses? Il n'a pas été à l'école. bien sûr, le Seigneur Jésus avait été à l'école élémentaire qui avait lieu dans les synagogues, mais il n'avait pas été à l'école des pharisiens qui était comme l'université de Jérusalem. Et alors la foule le méprise parce qu'il n'a pas fait des études supérieures. Puis il y en a même qui l'accusent d'avoir un démon, qui l'accusent de violer le sabbat, ou qui le regardent comme étant fou, qui murmurent différentes choses contre lui. Les réactions envers lui sont très négatives jusqu'à ces versets. Mais après que le Seigneur Jésus a présenté cette idée d'être béni afin de pouvoir bénir les autres, la réaction a transformé au moins parmi plusieurs, et il y en a qui disent « Celui-ci est vraiment le prophète. » Et d'autres disent « C'est le Christ. » Il y en a qui le reconnaissent comme vraiment le Messie en ce moment, parce que cette offre que le Christ fait répond à une soif dans leurs âmes. Les fêtes observées telles que Dieu voulait étaient certainement des bénédictions, mais du temps de Jésus, les fêtes étaient devenues plutôt une tradition, une occasion d'enseigner la loi. Et on ne pouvait pas dire que cet enseignement n'était pas pratique et n'avait rien à faire avec leur vie, mais c'était rendu comme la moralisation. Faites ceci, faites cela, afin d'être correct, mais pourquoi? Et les gens pouvaient bien se demander, bien, qu'est-ce que ça donne, surtout si vous voyez les pharisiens qui étaient supposés être leur modèle, mais qui étaient hypocrites, qui faisaient tout pour voir l'apparence d'observer la loi, mais qui avaient des moyens de passer par-dessus. Et puis, après que le peuple a assisté à cette fête qui a rendu une occasion de simple moralisation, finalement le Seigneur Jésus présente ce après quoi ils ont soupiré, être bénis par Dieu afin de pouvoir être une bénédiction pour d'autres, se mettre un sens dans la vie, au lieu de cette moralisation vide. Et c'est pour cela que plusieurs maintenant le reconnaissent pour vraiment le Christ, vraiment le Messie. Et en disant que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, Christ montre alors qu'il offre le meilleur. Il offre ce qui pouvait vraiment satisfaire. Cette fête des tabernacles était une occasion aussi de rappeler aux Juifs que même dans la terre promise que Dieu leur donnait, ils étaient encore des étrangers, des pèlerins. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons que les patriarches habitaient la terre promise comme un pays étranger. Et parce qu'ils recherchaient la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, sur la terre, ils étaient encore étrangers, même dans le pays que Dieu leur donnait. Et maintenant, à la fin d'une fête, quand ils habitent sous des tentes ou dans des huttes, pour le rappeler qu'ils sont seulement des pèlerins sur la terre, le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voyez-vous le contraste entre les choses que la terre peut offrir et qui sont supposées mettre de côté pour une semaine, et ce que le Seigneur Jésus veut nous offrir. Mais le mot boire ou to boire dans le grec est dans un temps de verbe qui indique boire habituellement ou continuer à boire. Plusieurs ont reçu une fausse explication de quelques versets dans Jean chapitre 4 où le Seigneur Jésus parle à la femme samaritaine à côté du puits. Et il dit, si quelqu'un boit de cette eau dans le puits, il aura encore soif, mais si quelqu'un boit de l'eau que je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Ce verset a souvent été mal expliqué pour donner l'impression qu'on boit une fois pour toutes puis on n'a plus jamais soif. Ce n'est pas du tout ça la signification de ce verset, ni non plus des versets devant nous. Parce que pour ne plus avoir soif, il faut continuer à boire. Ce que le Seigneur voulait dire en disant « Celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif », il parlait du degré de satisfaction que cette eau donnait. Parce que si on a très très soif physiquement et qu'on boit de l'eau, on découvre souvent qu'on boit et on boit et on boit, mais On n'est pas vraiment satisfait, puis finalement on trouve qu'on peut plus en contenir, mais le bouche en demande encore. Avez-vous fait cette expérience? C'est la même chose avec l'appétit pour la nourriture. Si vous avez fait l'expérience d'être obligé de travailler très fort et manger très peu pendant longtemps, on trouve que l'appétit devient dérangé, puis on ne sait plus si on a faim ou si on n'a pas faim. Et on mange, et on se demande, voyons, est-ce que j'ai faim ou j'ai pas faim? Et pas drôle de passer par là. C'est comme ça quand on boit de l'eau physique. Tandis que si on boit de l'eau vive, et qu'on continue à boire, on est parfaitement satisfait. C'est de ça que le Seigneur parle. Mais c'est la condition de continuer toute nos vies à boire continuellement. Celui qui boit tout le temps de cette eau que je lui donne, il n'aura jamais soif, il sera parfaitement satisfait. C'est ça le message du Seigneur Jésus. Voilà la bénédiction pour nous-mêmes, afin que nous puissions porter des bénédictions à autrui. Ensuite, le Seigneur Jésus parle de bénédictions que nous pouvons être pour les autres. En disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, de l'eau alors qui sort de nous pour faire du bien aux autres. De quelle Écriture peut-il être question ici? Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui parlent d'être abreuvé, d'être arrosé, mais où est-ce que l'Ancien Testament nous parle de fleuves d'eau vive qui sortent de nous et qui coulent vers les autres pour leur faire du bien? Bien, il n'y a pas de texte dans l'Ancien Testament qui parle comme tel de l'individu qui a des fleuves d'eau vive qui sortent de lui. Alors, il doit être question ici de quelques applications en principe que le Seigneur Jésus fait pour dire que si l'Esprit habite en nous, des fleuves d'eau vive couleront de nous. Un texte auquel le Seigneur Jésus probablement fait une référence à Ézéchiel chapitre 47, parlant du temple. C'est vers la fin de la description du temple qui existera à Jérusalem pendant le règne millénaire du Christ. Et vers la fin de cette description, dans Ézéchiel 47, le prophète voit que de l'eau sort sous le seuil du temple. Et cette eau est un tout petit ruisseau au début, mais plus ça va, plus ça approfondit, et jusqu'à ce que ce soit une rivière qu'on ne peut traverser qu'à la nage. Et c'est de l'eau qui va purifier, assainir les rives partout où elles coulent et donner vie. Mais alors, comment pouvons-nous nous baser sur cela pour dire celui qui croit aura des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein? Tout simplement parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que de l'eau va couler du temple millénaire, alors des fleuves d'eau vive devraient couler de nous aussi, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'eau qui sort de nous doit avoir ce même effet que l'eau qui sortait du temple millénaire dans la vision d'Ézéchiel. Nous devrions avoir une influence qui abreuve les autres pour que les autres le sentent qu'ils sont bien en notre présence, ça les rapproche de Dieu d'être avec nous. Et ça devrait avoir un effet d'assainir aussi, là où les eaux étaient corrompues, où il y avait la pourriture, l'eau qui coulait du temple, les purifiait. Est-ce que notre présence a une influence sanctifiante pour ceux qui nous entourent, pour qu'ils soient mal à l'aise de niaiser, de dire des paroles vaines, de faire des choses qui ne glorifient pas notre Seigneur? Est-ce que ça les met mal à l'aise d'agir contre la parole de Dieu quand ils sont avec nous? C'est ça, avoir des fleuves d'eau qui sortent de nous et qui assainissent. Et l'eau qui sort de nous doit aussi submerger. Le prophète Ézéchiel trouve que, à une certaine distance, dans cette rivière qui sortait du sanctuaire, il traversait et entre l'eau jusqu'aux chevilles. Un peu plus loin, il traverse l'eau jusqu'aux genoux. Plus loin encore, l'eau est jusqu'aux reins. Et puis finalement, l'eau est si profonde et le fleuve si large qu'il ne peut pas traverser sauf en nageant. Est-ce que la bénédiction qui découle de notre vie devient comme ça? Pour que ceux qui nous entourent se sentent comme emportés par une influence sanctifiant que notre présence est même. Un autre texte auquel le Seigneur Jésus a pu se référer, c'est dans le livre de Zacharie, disant que pendant le règne millénaire du Christ, de l'eau sortira de Jérusalem, allant vers l'Occident et vers l'Orient. Et cette eau va abreuver les nations qui entourent. Et le verset qui suit dit, en ce jour-là, l'Éternel seul sera le roi de toute la terre. Qui semble indiquer que des fleuves d'eau vive vont couler d'une vie dans laquelle Christ règne. Est-ce que le Christ est votre roi et le mien aujourd'hui? Si oui, c'est parfaitement normal, tout à fait normal que des fleuves de bénédiction puissent couler de nous. Mais, qu'est-ce qui va faire que les fleuves d'eau vive coulent de nous? Celui qui croit en moi, ou qui a confiance en moi, c'est ça la signification du mot croire dans la Bible. C'est plus que simplement croire avec la tête, avoir une opinion. C'est lui faire confiance. Et la structure grammatique dans le grec le rend très clair que les fleuves qui coulent, le verbe couler doit arriver en même temps que croire et en dépendre, indiquant que pendant que nous croyons, les fleuves sortent de nous, mais si nous cessons de croire, les fleuves sont arrêtés. Alors, il n'y a pas un arrêt du salut ici, mais notre confiance au Seigneur chute parfois, n'est-ce pas? Notre foi n'est pas parfaitement stable, et quand notre foi vacille, les fleuves d'eau vive arrêtent pour le moment de couler. Les fleuves d'eau vive coulent pendant que nous croyons. Et la même structure grammatique dans le texte grec se trouve au début du verset 39, disant que ceux qui croiraient en lui recevraient le Saint-Esprit. Et le verbe recevoir dépend du verbe croire et arrive en même temps. Le Saint-Esprit nous est communiqué pendant que nous exerçons confiance en Dieu. Bien sûr, tout chrétien a le Saint-Esprit résident en lui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient point. Mais il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit qui demeure en nous et être rempli de l'Esprit, ou avoir la plénitude de l'Esprit. Et nous sommes remplis de l'Esprit pendant que nous exerçons la foi. J'ai souvent dans ma vie prié Dieu de me remplir de son Esprit pour telle tâche. Et beaucoup de chrétiens font pareil, puis je crois que Dieu, en voyant la sincérité, il bénit à la mesure qu'il peut sans contredire sa parole. Mais si nous regardons le Nouveau Testament, nous ne trouvons nulle part dans le livre des Actes que quelqu'un prie Dieu de le remplir de l'Esprit. Et nous ne trouvons nulle part dans les épîtres une indication que nous devons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Tout ce que nous trouvons, c'est un commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, soyez en train d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui détermine si nous sommes remplis du Saint-Esprit pour avoir des fleuves d'eau vive qui sortent de nous pour bénir les autres? Eh bien, la plénitude de l'Esprit va de pair avec l'exercice de la foi, l'exercice de la confiance en Dieu. Et si nous voulons que Dieu bénisse notre œuvre, nous devons faire ce que Dieu nous met à cœur de faire en lui faisant confiance, et alors la plénitude du Saint-Esprit va venir automatiquement parce que nous exerçons confiance en Dieu. Il y a une seule occasion où il a précisé, après la Pentecôte, que les disciples du Seigneur ont été remplis du Saint-Esprit en ce moment. C'est dans le quatrième chapitre des Actes. Et c'est après qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas prié pour la plénitude de l'Esprit à cette occasion. Ils ont prié pour le courage de persévérer et prêcher l'Évangile malgré toutes les menaces que leurs ennemis leur faisaient. Et ils ont demandé aussi que le Seigneur accompagne leur ministère avec des signes et des miracles, parce que en ce moment, le Seigneur démontrait sa divinité de cette façon. Et après qu'ils ont prié pour un tel courage, le lieu où ils sont est branlé, secoué, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et voilà le modèle que nous devons suivre. Non pas prier pour la plénitude du Saint-Esprit, mais quand Dieu nous met quelque chose à cœur, exercer la foi que Dieu va le bénir, nous élancer par la foi, et puis la plénitude du Saint-Esprit va suivre automatiquement. Voilà comment nous pouvons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Mais c'est la vie normale d'un chrétien aussi d'être une bénédiction pour Dieu. Parce que le Saint-Esprit allait être donné quand Jésus serait glorifié. J'ai cherché avec une concordance les références à la glorification du Seigneur Jésus et j'ai fait des découvertes intéressantes. D'abord, des quatre évangiles, seulement l'évangile de Jean parle de glorifier le Seigneur Jésus. Les autres évangiles parlent de glorifier Dieu, mais c'est seulement dans l'évangile de Jean qu'on trouve l'idée de glorifier Jésus. Et c'est l'évangile de Jean qui se concentre spécialement sur la divinité de Jésus-Christ. Chaque évangile le présente sous un différent aspect. Matthieu le présente comme un roi, Marc comme un serviteur, Luc comme homme, et Jean comme Dieu. Alors, c'est bien approprié que dans l'évangile de Jean, nous trouvons le Seigneur Jésus glorifié. Et j'ai trouvé aussi que le moment où il a été glorifié, ce n'est pas une seule occasion, ni une seule manière. Il a été glorifié en tant que fils de l'homme et glorifié en tant que fils de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus était homme et Dieu. Il est fils de l'homme, parle de son humanité en devenant comme nous, mais il est aussi divin, il est le fils de Dieu. Et il y a un contraste frappant entre les deux glorifications. Quand le Seigneur Jésus a été glorifié en tant que fils de l'homme, une occasion c'est quand Judas est sorti pour le trahir, le livrer à la mort, et aussi quand le Seigneur Jésus a parlé à certains Grecs qui voulaient le trouver, il a dit si le blé qui tombe dans la terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, il faisait référence là à sa mort expiatoire. En ce moment, il a dit, l'heure vient où le fils de l'homme doit être glorifié. Et alors, le Seigneur Jésus a été glorifié en tant que fils de l'homme par sa mort expiatoire en étant rejeté par les hommes. Est-ce que ça semble être une drôle de glorification? Bien, c'est tout simplement parce que c'est pour ça qu'il a devenu fils de l'homme. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, qu'il est devenu comme nous, afin de mourir pour nos péchés. Mais le Seigneur Jésus a été glorifié en tant que fils de Dieu, lors de la résurrection de Lazare, quand il a démontré qu'il était vainqueur de la mort. Après tout, c'est son humanité qui lui a permis de mourir pour nous, mais c'est sa divinité qui l'a rendu vainqueur de la mort, qui lui a permis de ressusciter et de nous ressusciter, de nous donner des corps immortels. Et Dieu attendait que Jésus soit glorifié avant de donner l'Esprit. Donc, n'est-ce pas logique de croire que la glorification du Seigneur Jésus va de pair avec la plénitude de l'Esprit? Et si nous cherchons à vivre pour sa gloire, des fleuves d'eau vive couleront de nos seins aussi. Comment pouvons-nous le glorifier? Nous pouvons le glorifier en tant que fils de l'homme en nous appliquant le fait que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et nous devons accepter d'être traités comme lui qui était trahi par Judas, rejeté, élevé sur une croix. Et nous pouvons le glorifier en tant que fils de Dieu en vivant dans la puissance de sa résurrection, en ayant une vie vraiment surnaturelle par la puissance de l'Esprit, une vie qui ne sera pas possible à l'inconverti. Le Seigneur Jésus n'a pas fini d'être glorifié non plus. Il a dit que quand le Saint-Esprit viendrait et nous enseignerait toutes choses, l'Esprit le glorifierait. Mais le moment capital de sa glorification a été quand il a été élevé sur le trône à la droite de Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, parce que c'est en ce moment, bien le Seigneur Jésus avait dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, je l'enverrai vers vous. Et quand il a atteint le moment capital de sa glorification, il a envoyé l'Esprit, qui offre au ministère de continuer en le joie ici dans l'Église. Et nous pouvons être une bénédiction pour Dieu justement au sein de l'Église, parce que un verset dans l'Épître aux Éphésiens nous dit « À lui soit la gloire dans l'Église, dans tous les siècles. » Oui, notre ministère sur la terre est de continuer à élever et glorifier notre Seigneur Jésus. Certainement, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu en tant que service, il faut le faire mieux lui-même. Il est infini, nous sommes des pécheurs limités, mais c'est une bénédiction pour Dieu de trouver des cas qui l'aiment et qui le glorifient. Et il désire que son Fils soit glorifié dans l'Église. Où sont les fleuves d'eau vive dans nos vies? Avons-nous connu des bénédictions pour nous-mêmes par l'eau vive qui nous satisfait pour toujours? Sommes-nous des bénédictions pour d'autres qui nous entourent? Et sommes-nous une bénédiction pour Dieu? Et si vous et moi ne pouvons pas dire honnêtement que cela est une description de notre vie, alors qu'est-ce qui ne va pas? Se peut-il que vous n'êtes pas vraiment sauvé, que vous n'avez pas vraiment connu qu'est-ce que c'est d'être abreuvé de l'Esprit? Êtes-vous venu au Seigneur Jésus avec votre soif? Avec votre vie qui ne vous satisfaisait pas les joies passagères de la terre, vous laissez vide, êtes-vous venu en lui pour avoir la vie éternelle? Et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose alors qui éteint l'esprit? Ou qui quelque chose qui éteint l'esprit et qui empêche que les fleuves d'eau vive coulent? Nous avons dit que l'esprit est comme un fleuve qui sort du temple, ou bien aussi que les fleuves d'eau vive coulent de la ville où Christ est roi. Oui, êtes-vous soumis vraiment à la seigneurie du Seigneur Jésus? Si nous arrêtons d'être soumis à sa seigneurie, ça aussi va arrêter les fleuves d'eau vive de couler de nous. Où sont les fleuves d'eau vive dans votre vie et la mienne? Que l'Esprit nous sonde, et si nous ne pouvons pas dire honnêtement que cela décrit nos vies, soyons honnêtes devant Dieu, alors laissons l'Esprit nous montrer qu'est-ce qui ne va pas, afin que nous puissions avoir des vies qui bénissent les autres qui nous entourent et qui bénissent notre bien-aimé Seigneur. Prions-le. Père éternel, c'est notre désir que, ayant connu ta bénédiction sur nos vies, nous puissions être des bénédictions à ceux qui nous entourent, afin que des hommes soient assurés au salut, et afin que des chrétiens soient rapprochés de toi à cause de notre présence, parce que notre présence devrait être ta présence. Et nous voudrions aussi être une joie pour notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, qui se donne à cause de la joie qui lui est réservée. Que tu nous abreuves et fais-nous goûter cette satisfaction complète de nos vies, afin que des fleuves puissent sortir de nous et couler autour de nous. Car c'est pour la gloire de notre bien-aimé Sauveur que nous le prions en son nom. Amen.